Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien. Alors, on a entamé la période qu'on appelle la période de Bein HaMetzarim, c'est-à-dire la période des 3 semaines, pendant laquelle on nous demande de nous endeuiller sur la destruction du Beit HaMikdash. En réalité, on comprend bien qu'on ne nous demande pas de nous endeuiller sur quelque chose de passé, mais sur quelque chose qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer un petit peu mieux de comprendre ensemble qu'est-ce qu'Hashem il attend de nous pendant cette période de Bein HaMetzarim. Comment l'exploiter au maximum, Bezrat Hashem, si c'est dans notre relation à Hashem, si c'est dans notre travail personnel par rapport à nos vies, par rapport à notre attente de la Géoula. Et également, cette semaine, nous lirons 2 parashiot, les parashiot de Matot et de Mas'e. On va voir qu'est-ce qu'Hachem nous dit cette semaine dans ces parashiot. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous, pour nos vies au quotidien, Bezrat Hashem. Donc je vous invite à vous mettre en place et à me retrouver juste après une pause. A tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Avec Maaser.com, calculez le montant de votre Maaser en quelques clics. Grâce au site Maaser.com, développé par ToraBox, calculez le montant de votre Maaser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Maaser.com, un autre site exclusif made in ToraBox. Avec le Beit HaMidrash virtuel de ToraBox, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur ToraBox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabbanim, halakha, talmud, mishnah ou encore éthique juive, chassidout. Confiné ou loin d'un lieu d'études, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le Beit HaMidrash virtuel de ToraBox, enfin centre d'études 100% online.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Et nous voilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, c'est important pendant ces périodes de 3 semaines de faire un travail, d'essayer de comprendre un petit peu mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. En fait, toute l'année, on essaye de fuir la tristesse, on essaye de surmonter cette tendance parfois naturelle malheureusement à voir noir. Alors on se dit quoi? Alors pendant les 3 semaines, on n'écoute pas de musique, on ne doit pas se réjouir entre guillemets. En fait, on doit faire le travail inverse de ce qu'on fait d'habitude. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hachem, il nous a pas dit pendant 3 semaines, vous allez faire une tête de Tisha B'Av, c'est bien l'expression. Vous allez voir tout noir. Non, pas du tout. Il y a un travail en profondeur à faire. D'abord, il faut savoir que celui qui fait ce travail de rechercher Hachem pendant la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et ben les Chachamim, ils nous disent que il va pouvoir plus facilement trouver Hachem. Il va pouvoir plus facilement se connecter. Comment on le sait? C'est écrit dans un des versets de la Megillat Echa. Kol rotfea isigua ben hametzarim. Il y a un premier sens à ce verset qui dit que tout celui qui recherchait, qui poursuivait les Bnei Israël, à cette période, malheureusement, une période d'épreuve, une période de destruction, de chorban, de galout, d'exil, etc., atteignez les Bnei Israël. Mais il y a l'explication chassidique de ce verset qui nous dit Kol rotfeha. Normalement, ça veut, c'est un seul mot qui veut dire tout celui qui la poursuivait. Mais en vérité, la chassidoute divise le mot en 2. Kol rodef yutke. Yutke à la fin du mot rotfeha, c'est une allusion à Hachem. Tout celui qui poursuit Hachem, Bein HaMetzarim, pendant cette période des 3 semaines, ici guha. De nouveau, ici c'est atteindre. Et à la fin, on a de nouveau la référence à Kadosh Baruch Hu, le He, qui nous dit « Tout celui qui, pendant cette période, fait un travail de recherche, un travail d'introspection, ce que vous êtes exactement en train de faire, d'écouter un cours, essayer de comprendre un cours, une émission, essayer de comprendre un petit peu, mais bon, qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi ?» Eh bien, ça prouve que vous voulez en vérité, qu'on veut, Ezrat Hachem, se rapprocher d'Hachem, et on peut trouver Hachem dans cette période encore plus que le reste de l'année. Surtout que les Chachamim nous enseignent que entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, on a 21 jours qui sont une préparation aux 21 jours de Tishrei de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot. C'est une préparation. Et que celui qui se prépare pendant ces 3 semaines de Ben HaMetzarim, regardez une référence très 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 puissante qui nous dit comme ça, au nom du Rav de Ostrova, qui nous dit « Ametaken et nafsho bimei ben hametzarim » celui qui répare son âme pendant la période des 3 semaines, « Yotze liskot bimei adin shel Rosh Hashanah » méritera de sortir vainqueur au jugement de Rosh Hashanah, « Kigvartiken et kol atzarichlo » parce qu'il a réparé ce qu'il devait réparer. « Ki ayamim alalou » nous dit le Rav de Ostrova, parce que ces jours-là, « Nefru le rachamim ou le ratson » se sont transformés en miséricorde. Donc ce sont des jours qui nous préparent, ce sont des jours qui nous permettent de trouver Hachem, de répondre à nos questions intérieures, et c'est un travail qui doit être fait obligatoirement, pas comme on le pense forcément, avec un visage triste, mais regardez ce que nous dit le Maguide de Kojnitz, qui nous dit comme ça dans son livre Avodat Israël. Agam shazman gorem liot etse venenar bibe ben ametzarim al khurban beit Hashem. Bien que, a priori, c'est une période pendant laquelle on est censé s'attrister sur la destruction du Beit Hamikdash. Im kol ze yesh lechazek et atzmo ou leta'er et levavo. Avec tout ça, on se doit de se renforcer et de purifier notre cœur. La avod et Hashem betora. Utfila be simcha. On se doit quand même de travailler et de servir Hachem la Torah, la Tfila et tout cela dans la joie. Alors vous voyez, on est à côté de la plaque. En fait, on n'a pas compris que c'est une période pendant laquelle Hachem il nous dit quelque chose. C'est une période pendant laquelle il attend un travail de nous. Mais nous, on se trompe de travail. On croit que ça y est, on a la permission de pouvoir être triste. Non, il faut servir Hachem dans la joie tout le temps. Mais là, il y a un travail qui vient. Et en fait, je vais vous expliquer deux facettes de ce travail de Ben HaMetzarim. Alors, le premier travail à faire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie, de me languir de cette période, de cette époque où on avait le Beit HaMikdash, où on avait la possibilité d'offrir les sacrifices, le korban du matin, le korban du soir qui expiait les fautes, de comprendre que c'était une vie où Maneshama pouvait se connecter à Hachem sans entrave, d'abord parce que lorsqu'on offrait les sacrifices, on était pardonné, donc on allait se coucher, on n'avait pas de fautes, et on sait que ce sont les fautes qui nous éloignent d'Hachem, qui mettent des écrans entre Hachem et nous. En plus, grâce à la présence du Beit HaMikdash, on avait la possibilité de comprendre ce qu'Hachem nous dit. On avait une connexion directe avec Hachem. C'était un cadeau incommensurable, quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Alors, c'est difficile de s'endeuiller sur quelque chose qu'on n'a pas connu. Mais vous pouvez essayer de prendre des moments dans votre vie où vous avez senti très fort à Kadosh Baruch Hu. Ou bien vous avez prié pour quelque chose et vous avez été exaucé, ou bien vous avez été au Kotel ou à Kever Achel, ou dans un endroit qui a réveillé quelque chose en vous, ou bien vous avez eu une grande joie dans votre famille, un mariage, une naissance, et vous avez senti votre cœur déborder d'amour pour Hachem. On a tous eu, Baruch Hachem, toutes eu des moments dans notre vie où on a senti une grande proximité avec Hachem. Ou bien quelque chose, des fois, on s'est posé, on s'est interrogé, on a hésité, et puis sauf, on a compris qu'est-ce qu'Hachem il attendait de nous, on a eu des réponses. On a tous eu des périodes où on s'est senti proche d'Hachem. À l'époque du Beit HaMikdash, c'était beaucoup plus facile de ressentir cela, rien que par la présence du Beit HaMikdash. Donc déjà, le premier aspect du travail que cette période nous invite à faire, c'est comprendre que je dois me languir, pas de quelque chose que je ne connais pas, que comment est-ce qu'on peut me demander de me languir de l'époque du Beit HaMikdash alors que je n'ai pas connu le Beit HaMikdash. Non, c'est quelque chose qui est lié à moi, à ma neshama, à ma personne. Et en vérité, lorsqu'on voit toutes ces souffrances, c'est dans le monde malheureusement, depuis le 7 octobre, mais déjà avant, toutes les guerres, les soldats, Chas v'Shalom, Alenu, qui partent, toutes les malheurs qu'on peut entendre des parents, des enfants, des maladies, etc., etc. Tout ça, ça vient et ça nous invite à crier Hachem. En fait, on veut que tu te dévoiles. On veut que tu puisses dispenser de ton tov, de ton bien, sans avoir à passer par des épreuves. On veut que tu nous parles, que tu t'exprimes envers nous, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de passer par les épreuves pour nous rapprocher de toi. Malheureusement, très souvent, c'est les épreuves qui nous font lever les yeux au ciel. Lorsque Hachem est dévoilé, alors en réalité, rien qu'un verre d'eau, ça me fait me rapprocher d'Hachem. Rien qu'une bonne note d'un enfant, ça me fait me rapprocher d'Hachem. Je n'ai pas besoin de passer par des complications, des épreuves, des difficultés. Et c'est le premier travail à faire, c'est déjà de me languir de cette vérité, de me languir de cette vie qui a été et qui va revenir. Parce que c'est toute la base de notre judaïsme, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, de savoir qu'il va avoir un troisième Beth Amikdash, de savoir qu'il va avoir un Mashiach, de savoir qu'on ne va pas rester indéfiniment dans cet exil, bien qu'il soit très long, malheureusement. Donc, le premier travail, c'est de comprendre et de réaliser qu'on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place. Notre place, ce n'est pas être en exil. Oui, l'exil, il a un intérêt. Il nous apprend des choses. Il nous apprend à chercher Hachem. Mais on veut terminer avec cet exil. On veut pouvoir que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, elle soit directe, sans passer par les épreuves. Donc, se languir, espérer, attendre, demander, déjà, c'est un premier aspect du travail qui nous est demandé pendant la période de Bein HaMetzarim. Maintenant, évidemment, c'est un travail qu'on doit faire toute l'année. Aval mala asot, que toute l'année, on court, on est occupé, on est à droite, à gauche. Alors Hachem, il nous dit, écoutez, je vous donne 3 semaines où vous allez vous concentrer sur ce travail. Bien que c'est un travail qu'il faut faire toute l'année, bien que c'est dans les tefillot, dans la Amida du Shmona Esrei, dans le Birkat Amazon, ça apparaît, les demandes qu'on fait pour la Géoula et pour tout ce que la Géoula implique, etc. Mais c'est vrai que dans l'année, malheureusement, trop souvent, notre esprit est ailleurs. Et là, Hachem, il nous dit, là, je vous donne 3 semaines pendant lesquelles j'attends de vous que vous soyez connectés à cet exil, que vous soyez connectés au fait que le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Ça me rappelle donc cette fameuse parabole du Rav Zilberberg que j'ai l'habitude de raconter, de deux parents en Russie soviétique, si je ne me trompe pas, qui ont 2 garçons. Et puis, ils commencent à avoir les décrets d'enrôler les jeunes enfants dans l'armée russe. Et les parents ont très peur pour leurs enfants. Et ils se disent, on n'a pas le choix. Si on veut sauver nos enfants au niveau spirituel, on doit les éloigner au maximum pour ne pas qu'ils soient enrôlés par l'armée. Parce que là-bas, on sait que il y avait de fortes chances pour que les enfants oublient complètement leur judaïsme. Et donc, le père, la mère ont envoyé leurs enfants loin, dans un autre pays, là-bas où il n'y avait pas de danger d'être enrôlés, etc., dans une yeshiva. Et comme ça, ils se sont dit, nos enfants sont protégés. Évidemment, ça a été très difficile pour les parents. C'était une épreuve très difficile pour les parents. Et après quelques semaines, quelques mois, les parents ils se disent « Mais c'est pas possible, on ne pourra pas rester des mois, des années sans voir nos enfants, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une solution, qu'on mette de l'argent de côté pour pouvoir au moins leur permettre à Pessah, dans je sais combien de mois, dans 8 mois, de pouvoir les faire revenir. Et on s'arrangera, on les cachera, l'armée ne les trouvera pas, mais on ne peut pas envisager de ne plus les revoir. » Et donc le père, la mère, ils se disent « Mais comment est-ce qu'on va mettre de l'argent de côté? On n'a même pas de quoi vivre. » Alors ils se disent, eh ben en fait, tous les matins et tous les soirs, lorsqu'on va au travail et on revient au travail, au lieu de prendre le train, on va aller à pied. Et cet argent avec lequel on devait payer le train, on va le mettre de côté tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à ce qu'on aura suffisamment de quoi leur payer un billet de train pour pouvoir revenir et passer la fête de Pessah avec nous. Et voilà que je vais vous la faire courte, les parents font comme ça, ils mettent de côté pièce, pièce, jusqu'à ce qu'ils arrivent à rassembler la somme nécessaire pour faire venir leurs enfants. Et hyper, hyper émus, ils trouvent un moyen de joindre leurs enfants, ils les appellent et ils leur annoncent, vous savez, on a réussi à rassembler la somme nécessaire pour vous faire venir pour la fête de Pessah à la maison. Et ils s'aperçoivent au bout du fil que les enfants, ils ne sautent pas de joie. Ils ont l'air hésitants, En vérité, les enfants, ils ont été perturbés parce qu'ils se sont habitués à l'endroit où ils étaient. Ils étaient tout compte fait bien à la yeshiva. Ils ont peut-être peur de rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils sont pris par l'armée du tsar? Et en fait, les parents ne comprennent pas et ils se disent, bah, apparemment, nos enfants ne veulent pas rentrer à la maison. Ils raccrochent comme ça le téléphone, complètement désespérés, complètement tristes de se dire, en fait, on a mis de côté de l'argent parce qu'on espérait qu'ils voudraient nous revoir. Mais en fait, ils n'ont même pas l'air d'avoir envie de nous revoir. Et voilà que de l'autre côté, les enfants réagissent et ils se disent, mais enfin, papa et maman, on les a langués, mais on est fous. Pourquoi on n'a pas sauté de joie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... On ne leur a pas montré que oui, on veut les voir, que oui, on veut rentrer à la maison. Et là, les parents, d'un côté, ne savent pas quoi faire. Et le téléphone ressonne. Et là, ce sont les enfants qui disent, papa, maman, bien sûr qu'on veut rentrer. Bien sûr qu'on veut rentrer. Merci, merci de vous être donné autant de mal pour rassembler la somme nécessaire pour nous faire rentrer. On vous a tellement langui. On veut rentrer, on veut rentrer. Le Rav Zilberberg, il dit que... On doit dire à Hachem, Hachem, on veut te retrouver. On veut revenir à la maison chez toi. On veut que tu reviennes à la maison. Et à chaque fois qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, délivre-nous, envoie la Géoula, envoie le Mashiach, envoie-nous le troisième Beth Amikdash, on est comme ces enfants qui sont en train en vérité de dire à leurs parents, mais oui, on vous aime, on ne peut pas vivre sans vous. Et combien de nachat cela donne aux parents? Et dans l'explication de la parabole, combien est-ce que cela est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le fait que nous lui disions, Hachem, délivre-nous. Hachem, dévoile-toi dans ce monde. Hachem, arrête d'être caché. Envoie la Géoula. Ça, c'est un des premiers aspects du travail à faire pendant cette période de Ben Hametzarim. Toute l'année, mais encore plus pendant Ben Hametzarim. Une petite pause. Les filles, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-boss.com. On continue après une pause.
Sahavol v'mayim mitcholololim uvaneoroi zelo yishtefuchon ki selech v'moyeish lo yisikov v'lehovod lo yisivarvod ki sahavol v'mayim mitcholololim uvaneoroi zelo yishtefuchon ki selech v'moyeish lo yisikov v'lehovod lo yisivarvod. Shuv amayim, am Yisroel chay, mitachas hashamayim, am Yisroel chay. Im amayim, im atayla, v'nishum moireay, am Yisroel chay, liyoylom. Boi shuv amayim, am Yisroel chay, mitachas hashamayim, am Yisroel chay. Im amayim, im atayla, v'nishum moireay, am Yisroel chay, liyoylom. Sahavar b'mayim mitchom olamim uvane olorois lo yishtefucho ki seilech b'mayish lo yisikov v'le'ovodom lo yisivardom ki sahavar b'mayim mitchom olamim uvane olorois lo yishtefucho ki seilech b'mayish lo yisikov v'le'ovodom lo yisivardom. Shabbayim, am Yisrael chai, mitachas ha-shabbayim, am Yisrael chai, im תחס השמיים עם ישראל חי עם הבאי עם התאיר ולשמו ידעי עם ישראל
Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Alors, pour celles qui viendraient de nous rejoindre, je vous rappelle que l'émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box. Et vous pouvez également la retrouver si vous voulez rattraper le début de l'émission en tapant sur le moteur de recherche du site de Torah Box, judaïsme au féminin, et vous trouverez là-bas toutes nos émissions, Baruch HaShem. Alors, on continue. On a donc commencé à parler de comment est-ce qu'on vit cette période de Ben HaMetzarim, comment est-ce qu'on l'exploite. On a compris qu'elle est, oui, à exploiter, qu'elle est importante, que ce n'est pas une période qu'il faut sauter. Vous connaissez ce sentiment qu'on a, en tout cas moi, peut-être qu'il y en a d'autres comme moi. Dès que approche le 17 Tammuz, on aimerait faire un saut pouc, et arriver déjà au Yud Av. Et c'est une erreur, c'est une grosse erreur. Parce que pendant cette période, il y a des choses qui peuvent se passer et qui vont se passer dans notre vie, dans notre relation à Hachem, dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de la Géoula, dans notre préparation, comme on l'a dit tout à l'heure, à Rosh Hashanah même, dans notre connexion à la vérité, il y a des choses qui se passent. Et donc, on ne veut pas les baser et on ne veut pas, Chas Shalom, ne pas les mériter. Donc, on s'efforce de faire ce qu'il y a à faire pendant cette période et de comprendre que ce n'est pas une période qui vient comme une épine dans le pied, mais c'est une période qui vient nous rapprocher d'Hachem. Donc, je vous ai expliqué avant la pause que le premier travail à faire, c'est de comprendre ce qui nous manque pour nous languir de la Géoula, pour avoir envie que sauf le Mashiach vienne. Alors, il y en a pour qui c'est évident. Donc, celles pour qui c'est évident qu'elles ont tout le temps envie et qu'elles sont tout le temps dans cette attente, etc., ce que je vous dis, ça vous concerne peut-être pas. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui sont très occupées dans leur travail, dans leur quotidien à la maison, et qui n'ont entre guillemets pas le temps de réaliser combien est-ce que le Mashiach, c'est quelque chose qui est urgent, qu'on a besoin de lui. Et en fait, ça nous arrive, comme je vous l'ai dit, souvent on ressent ça quand on entend des malheurs. Chas v'shalom, lo aleinu, lorsqu'on entend des choses difficiles. Alors là, on se dit stop, on veut la Géoula. Et bien Hachem, il a concentré ce travail à faire pendant ces 3 semaines, en sachant, comme je vous l'ai dit, que c'est un travail qui est offert également toute l'année. Ça, c'était la première facette du travail. On en reparlera aussi encore la semaine prochaine et la semaine d'après, mais déjà, comprendre comme ça, plus ou moins. Ensuite, on a un autre travail à faire, qui est le travail de réparer les raisons pour lesquelles on est encore en exil. Et ça, de nouveau, c'est un travail à faire toute l'année, et encore plus pendant cette période, parce que encore plus pendant cette période, on sent l'urgence de la situation. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour réparer pourquoi est-ce qu'on est encore en exil. Aujourd'hui, on va en aborder un sujet, et j'espère la semaine prochaine et la semaine d'après, on en abordera d'autres. On sait que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, Sinat Hinam. Et on sait que s'il n'est toujours pas reconstruit, c'est parce que On n'a pas encore réparé cela. Et lorsque je dis on n'a pas encore réparé, c'est pas eux les gens, c'est pas personnes qui font des disputes, c'est pas les gens. Non, c'est nous tous. On est tous un seul peuple. On a tous notre part dans l'édifice du troisième Beth-Amigdash. On a tous et toutes notre part de responsabilité et on se doit tous de réparer cette faute. On va pas se dire non, bon ça, la haine gratuite, non moi ça va, j'aime tout le monde, je suis peace and love, j'ai de bonnes relations. On doit savoir que chacune d'entre nous, on a un travail à faire et que ce travail, il va passer par l'introspection. L'introspection, c'est-à-dire essayer de voir... Vous savez, notre relation à autrui, elle passe par les pensées qu'on a au sujet de l'autre. Les paroles, bien sûr, les paroles. Et tout ça, ça apparaît dans notre paracha. Vous savez, dans la première paracha que nous allons lire, dans la paracha de Matot. La paracha de Matot, elle commence, on va comme ça lier un petit peu la période de Ben Hametzarim avec nos parachiotes. La paracha de Matot, elle commence par ce qu'on appelle les Nédarim, c'est-à-dire les vœux. Une personne qui fait un vœu, elle doit donc accomplir, réaliser ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit dans son vœu, et si elle veut annuler son vœu, etc. On parle donc de tout ce qui concerne les nédarim, les vœux. Et on a un verset qui nous dit comme ça, donc au début de la paracha de Matot, Lo yachel devaro, kechol ayotse mipiv yaase. On ne devra pas, l'homme ne devra pas profaner sa parole. Tout ce qui sortira de sa bouche, il fera. Donc, dans ce début de paracha, on nous rappelle l'importance de prendre conscience de combien est-ce qui sort de notre bouche. On doit être vigilant. D'abord, première dimension, si j'ai dit quelque chose, j'ai dit je vais faire quelque chose, je vais donner quelque chose, je vais entreprendre quelque chose, toujours important de dire bli neder. De ne pas stam sortir des paroles comme ça de notre bouche, parce que ce qui sort de notre bouche, c'est très fort. On dit que la différence entre nous et les animaux, c'est ce qu'on appelle donc ce roar memalela, c'est comme ça que c'est écrit au début de la création de l'être humain, qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en nous un souffle de parole d'Hachem lui-même, et de la même manière qu'Hachem, il a créé ce monde par la parole, nous aussi, par la parole, nous créons. Donc, par rapport au sujet des vœux abordés au début de la paracha, faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que notre bouche a été créée pour louer Hachem. Comme c'est écrit, Amzu yatsarti li teilati yesaperu. Hachem nous dit, ce peuple je l'ai créé, moi ma louange ils raconteront. On a été créé pour louer Akadosh Baruch Hu, pour le dévoiler dans le monde. D'accord ? Lorsqu'on utilise notre bouche à mauvais escient, Chas Veshalom par exemple, en disant du Lashon Hara, et on sait que le Beit HaMikdash a été détruit, on parle de la haine gratuite, mais on sait qu'à l'origine de cette haine gratuite, il y a eu un Lashon Hara. Lorsque malheureusement, on continue dans ce mauvais chemin, qu'on parle de l'autre, qu'on n'est pas assez vigilant à ce qu'on entend, lorsqu'on entend quelque chose de négatif qui a été fait sur l'autre, etc. Il faut savoir que, Chas v'Shalom, malheureusement, on retarde la venue de Mashiach. Donc pendant cette période, toute l'année, et encore plus pendant cette période, on se doit de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Que ce ne soit que des paroles positives. Des paroles positives d'abord, des paroles constructives, des compliments par exemple pour les gens qui nous entourent, des compliments à notre mari, à nos enfants. Il faut abuser de la parole, mais pour des choses bien. Parler des paroles de Torah, parler des paroles gentilles, des paroles d'empathie, et surtout s'éloigner des paroles négatives, toutes les formes de paroles négatives, lashon hara, rechilut, colportage, mensonge également, tout ça parce qu'on réalise à quel point notre parole elle est importante, elle crée des choses, elle crée des réalités. Lorsque on dit des choses, combien c'est important. Vous savez, on a eu l'occasion, Baruch Hashem, avec Torah Box, d'organiser des ateliers sur la pensée positive avec la rabbinite Sarah Yosef, la belle-fille du Rav Ovadia Yosef, qui a écrit les livres sur la pensée positive. Et elle nous dit combien les gens, ils ne se rendent pas compte de combien est-ce qu'ils parlent mal. Ils parlent mal. Par exemple, quelqu'un qui dit « je vais tomber ». Non, il ne faut pas parler négativement parce que ça crée des choses. Ou bien une personne qui dit à son enfant « mais tu vas faire tomber le verre ». Tu vas renverser ton verre. Elle nous disait, la rabbinite, combien est-ce qu'il faut faire un switch dans la tête pour parler positivement. Il y a des gens pour lesquels c'est vraiment difficile, mais c'est vraiment important. Donc, parler positif et s'éloigner des paroles négatives. Quelque chose que je peux vous recommander de manière, voilà, on va dire plus concrète, pratique, parce que c'est important aussi de donner des conseils pratiques, c'est par exemple de prier de temps en temps, de lire la prière du Hafetz Chaim sur Shmirat HaLashon, dans laquelle le Hafetz Chaim, c'est la prière qu'il a composée, dans laquelle on demande à Hachem de nous aider à nous préserver, à préserver notre bouche. Donc ça aide, parce que bien sûr, on peut s'efforcer, on doit s'efforcer de ne pas dire du Lashon Hara, mais la prière, elle aide toujours. Toute seule, on n'y arrive pas. HaKadosh Baruch Hu, il a créé cette réalité qu'on a besoin de lui pour le servir. Et on a la possibilité de lui demander de l'aide et pas la possibilité, on a même le devoir de lui demander de l'aide. Autre chose également qui est très important par rapport à Shmirat HaLashon, c'est le fait d'étudier des halakhot de Shmirat HaLashon. Vous avez une multitude de livres, les livres du Hafetz Chaim, il y a des études qui sont faites par jour. Moi, j'aime bien régulièrement changer de livre, d'accord ? Étudier différents livres, parce que des fois, quand on étudie un même livre pendant longtemps, on a l'impression qu'on connaît déjà ce qui est écrit et puis on n'a pas de sentiment de renouveau, etc. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a même pas uniquement les livres du Hafetz Chaim. Moi, là, par exemple, je lis en ce moment, bon, c'est un livre qui existe en hébreu, mais je suis sûre qu'en français aussi, vous devez avoir toutes sortes de livres. En l'occurrence, moi, en ce moment, j'étudie les halakhot de la Lashon Hara dans le livre du Rav Ronen Chaziza, donc un Rav connu en Israël, parce que, voilà, il a un langage très simple et puis c'est une autre division des chapitres que le Rav Etzraïm, bien que, évidemment, toutes les halakhot sont tirées de ce que le Rav Etzraïm nous a inculqué. Mais voilà, j'aime bien changer de livre, donc ça aussi, je peux vous recommander. Il y a un autre livre également que je prévois, Bezrat Hashem, de reprendre lorsque j'aurai terminé le livre du Rav Chaziza que je suis en train de lire. C'est Des mots pour construire. Là, on parle également de la force du langage, mais ce n'est pas sur le Shmirat HaLashon, c'est sur l'importance de ne pas dire des paroles blessantes, etc. Le Issur de Onat Devarim, ça aussi c'est intéressant, ça aussi ça s'apprend. Tout ça pour vous dire que lorsque l'on veut évoluer, se renforcer dans un domaine, il faut, un, prier pour cela, deux, étudier. C'est pas tout de se dire, ok, je vais m'efforcer de me renforcer en Shmirat HaLashon. Je vais m'efforcer de me renforcer en Tfila. Je vais m'efforcer de me renforcer en Tzniut. Non, on a la possibilité d'avancer grâce à des choses pratiques comme prier et comme étudier des livres qui nous aident sur le sujet. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont indispensables pendant cette période de Beina Metzarim, de travailler notre Ahavat Israël en passant par le tikkun, la réparation de nos fautes de Lashon Hara. Donc, je vous l'ai dit, une des facettes de la réparation de la haine gratuite, c'est tout ce qui a attrait au Lashon Hara, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a également les machloktot, les discordes, les querelles qu'on a laissées, quelqu'un qu'on a peut-être blessé, un manque de shalom avec une voisine, avec une belle-mère. Donc là aussi, il y a un travail à faire pendant cette période, de s'efforcer d'augmenter le shalom, d'augmenter l'amour. Je sais que, Baruch HaShem, on a beaucoup d'imagination. On doit utiliser notre imagination à bon escient. Vous savez que dans notre paracha, on va voir, et on va en reparler tout à l'heure, on va assister à la guerre avec Midian. Midian, on dit que le mot Midian, c'est la même lettre, les mêmes lettres que le mot Dimayon. L'imagination. C'est une force négative, l'imagination, qui malheureusement très souvent nous fait tomber. On s'imagine que, oui, en vérité, ma collègue... Un exemple qui m'est arrivé hier soir, j'ai mis une publicité de quelque chose sur mon statut et j'ai une amie à moi, une fille extraordinaire, très 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 mignonne, qui m'a dit « Oui, je ne comprends pas ce que tu as mis sur ton statut. » Elle m'a expliqué quelque chose. En fait, je la comprends. Il y a quelque chose dans mon statut, dans une affiche que j'ai mise, etc., qui l'a blessée. Mais en vérité, ce n'était pas du tout. Elle n'avait pas du tout compris qu'en fait, ça n'avait strictement aucun rapport avec elle. Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Bah, vous comprenez, on ne sait jamais si elle m'écoute, je ne sais pas. Mais en vérité, il y a parfois l'imagination qui beaucoup, beaucoup, beaucoup nous amène à en vouloir à quelqu'un, nous amène à mal comprendre, mal interpréter. Donc, faire attention à nos pensées, aux pensées qu'on a envers autrui, à travailler sur nos pensées. Moi, je sais par exemple que j'ai une amie, et franchement, je vous parle très naturellement, parce que voilà, on est des êtres humains, puis on est des femmes aussi. Les femmes, on a beaucoup d'imagination. J'ai une amie face à laquelle je me sentais une certaine colère, une certaine... Elle m'a saoulée, etc. Et pourtant, c'est une bonne amie qui m'aime beaucoup et très gentille avec moi. Et j'en ai parlé avec HM dans Mindbou des doutes aujourd'hui. J'ai dit, mince, c'est pas agréable d'avoir comme ça un sentiment négatif. En vérité, j'ai un petit peu creusé. J'en ai parlé avec HM. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Et puis, j'ai trouvé un petit peu ce qu'il y avait à la source de mon ressenti. Et en fait, voilà, il faut essayer de découvrir qu'est-ce qui m'entraîne, qu'est-ce qui m'a amené peut-être à en vouloir à quelqu'un pour essayer d'effacer et d'avoir un cœur pur pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire venir la Géoula. On fait une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio@stora-box.com. Juste après la pause, on continue. À tout de suite.
Le service Refouach Shelema de Torah Box, c'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Olim, la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midot. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin. Parashiot Matot Mas'e, une préparation également à Ben Hametzarim, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant qu'on a un petit peu parlé de quelques notions importantes liées à la période des trois semaines, on va un petit peu plus se pencher sur les parashiot de Matot Mas'e, qui en vérité concluent le livre de Bamidbar. On termine donc un livre ici qui était, entre guillemets, rude, avec beaucoup d'événements, des événements pas toujours faciles, des moments difficiles même pour le Ham Israël, des fautes. Mais vous savez, j'ai entendu tout à l'heure dans un cours de la rabbine Tragit Shira que quelqu'un était venu voir, je ne me souviens plus quel rave, un homme était venu voir un grand rave et il lui avait dit « Je n'aime pas le livre de Bamidbar ». Parce que dans le livre de Bamidbar, on voit plein de fautes que les Bnei Israël ont faites et bon, ça me déprime quoi. Et le rav en question lui répond, lui dit, en vérité, toutes ces fautes, elles sont écrites dans la Torah. La Torah, c'est tout la parole d'Hachem. C'est que si Hachem, il a écrit, il a détaillé toutes ces fautes, c'est parce que même dans ces fautes, on a quelque chose à apprendre. Même dans ces fautes, on a une parole divine. Donc oui, on va conclure un livre, le livre de Bamidbar, qui avait des moments difficiles. Mais vous allez voir, lorsqu'on va dire quelques mots sur la paracha de Mas'e, combien c'est une leçon pour nous. Mais avant, j'aimerais d'abord dire encore quelques mots sur la paracha de Matot que j'ai commencé à aborder avec le sujet, premier sujet, le sujet des vœux, les Nédarim. Et puis également, je vous ai dit, donc on a dans cette paracha la guerre de Midian. On va dire quelques mots sur cette guerre parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, donc Moshe se voit donc ordonner de sortir en guerre contre Midian. Je vous rappelle que dans la paracha, la fin de la paracha de Balak et la paracha précédente, Pinchas, on avait vu que donc il y avait eu une épidémie parce que les Midianim avaient envoyé les femmes qui avaient fait fauter les Bnei Israël. Et donc là, maintenant, il s'agit de se venger. Hachem, il dit à Moshe, Tinkom Bemidian. Bemidian, tu vas venger de Midian. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait fauter les Bnei Israël. Il faut savoir que Midian, il n'était pas seul à ce moment-là. Ils étaient avec Moab, je vous rappelle. Ils étaient choutafim, comme on dit. Ils ont ensemble mis au point ce stratagème. Mais par contre, Moab, Hachem ne demande pas de se venger de Moab parce que de Moab va sortir Ruth. Donc Moab, il a le privilège de ne pas être attaqué. Par contre, Moshe, il va devoir envoyer donc des hommes pour aller venger les Bnei Israël, sortir en guerre contre Midian. Mais on voit que ce n'est pas Moshe qui va partir en guerre. Moshe, il va nommer Pinchas et Elazar, si je ne me trompe pas. Une seconde, je regarde dans le texte. Oui, Pinchas, fils d'Élazar. Oui, Pinchas, il va l'envoyer. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que Moshe, il a une reconnaissance, une akaratatov envers Midian. Je vous rappelle un petit peu d'histoire. Lorsque Moshe avait tué l'Égyptien et qu'il avait dû fuir Paro, il était arrivé à Midian. Et là-bas, il avait rencontré Tzipora. Bon, je passe tous les midrashim dans lesquels il a passé des années en prison, entre guillemets, etc. Au bout du compte, il a quand même grandi à Midian, il s'est marié à Midian, sa femme était une Midianite. Et on dit donc que Moshe a une reconnaissance, une akaratatov envers Midian. Et je vous rappelle, c'est quelque chose que je vous avais expliqué à plusieurs reprises lors des émissions sur Pessar, même l'émission de la sortie d'Égypte, j'avais expliqué que Moshe Rabbeinu, étant celui qui va faire sortir les Bnei Israël d'Égypte et qui va les amener à recevoir la Torah, c'était hyper important qu'il n'entache pas du tout la akaratatov, la reconnaissance et la gratitude qui existaient en lui. C'est pour ça que je vous rappelle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, je vous rappelle que c'est pour ça également que Moshe n'avait pas, au moment de la première plaie, Moshe n'avait pas frappé le Nil. C'était Aaron qui avait frappé le Nil. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que Moshe Rabbeinu avait une dette de reconnaissance envers le Nil, que lorsqu'il était bébé et que sa maman, Yocheved et Myriam, sa sœur, avaient posé son couffin sur le Nil l'avait protégé. Donc Moshe a une dette de reconnaissance envers le Nil. Et donc, lorsqu'il s'agit de frapper le Nil pour entraîner la plaie du sang, pour que commence la plaie de dame, la plaie du sang, ce n'est pas Moshe qui frappe, mais c'est Aaron. Et on avait vu qu'en fait, à plusieurs reprises dans l'histoire de la sortie d'Égypte, on a ça comme un leitmotiv, que Moshe, et même pas que Moshe, on a à plusieurs reprises, on a l'importance de la gratitude, de la reconnaissance. J'avais expliqué pourquoi, parce que c'était la condition pour sortir d'Égypte, d'apprendre à être reconnaissant envers Hachem. Donc là aussi, on a également cet exemple. On voit que ce n'est pas Moshe qui va sortir en guerre, mais il va envoyer Pinchas parce que Moshe a une certaine reconnaissance envers les Midianites. Néanmoins, il faut se venger. Ils ont malheureusement entraîné une épidémie, des morts, une très grande faute. Je vous avais expliqué que Bilam il avait compris qu'en fait, il ne pourrait pas maudire les Bnei Israël, mais qu'il pourrait les faire chuter, tomber. Et c'est vraiment, vraiment malheureusement, c'était très intelligent de sa part, malheureusement pour nous. Et voilà, donc tout à l'heure, je vous ai dit que Midian, c'est également les mots de Dimayon, attention à l'imagination négative, etc. Donc on voit dans cette paracha l'importance de nouveau de la karatatov, de la reconnaissance de Moshe Rabbeinu, Moshe qui renvoie donc Pinchas, et quelque chose d'intéressant. On nous dit que Moshe a envoyé 1000 hommes par tribu, mais le Midrash nous dit qu'en vérité, il avait envoyé 3000 soldats par tribu et pas 1000. Pourquoi ? Parce que il y avait 1000 soldats par tribu qui étaient sortis en guerre. À part ça, il y avait encore 1000 par tribu qui devaient garder les outils et les ustensiles et qui devaient garder les camps, les affaires des soldats, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait également 1000 soldats qui devaient prier pour la réussite des soldats. Et c'est intéressant quand même. Donc en tout, il y avait 36 000 soldats qui sont partis en guerre, mais aussi quelque chose de très beau. On sait que, on voit dans cette paracha qu'en fait, Moshe va devoir bientôt mourir, il va devoir donc terminer, c'est la fin des 40 ans, on est à la fin des 40 ans dans le désert, Moshe va devoir se séparer des Bnei Israël, mais avant de se séparer des Bnei Israël, il doit absolument venger les Bnei Israël de ce que Midian a fait, il ne peut pas mourir tant que ça ne s'est pas fait. Malheureusement, on sait que ça fait partie des dernières choses que Moshe va devoir faire. Et les Bnei Israël savent ça. Ils savent que Moshe Rabbeinu va mourir après la guerre de Midian. Et donc, on dit que les soldats n'ont pas voulu sortir en guerre. Parce qu'ils ont eu de la peine de savoir qu'après cette guerre, Moshe devrait mourir. Et que ce sera en vérité quelque part une guerre qui allait amener à leur séparation avec Moshe. Malgré tout, ils ont été pris de force pour mener cette guerre. On voit également donc ils vont sortir en guerre, ils vont gagner la guerre. On voit que ils vont ramener les femmes dans le camp des Bnei Israël et là Moshe il va s'énerver. Il veut pas de ces femmes, c'est ces femmes qui ont fait fauter les Bnei Israël et on dit que malheureusement à ce moment-là Moshe il s'énerve et à cause du fait de s'être énervé, il va oublier une halakha, c'est Elazar qui va l'aider à retrouver et à donner au Bnei Israël cette halakha. On dit que, on apprend d'ici que lorsqu'une personne se met en colère, alors elle oublie, elle perd toute sa chorma. Donc ça aussi c'est intéressant, surtout durant cette période de Ben Hametzarim, de travailler ses midotes en général. On a parlé ici de la colère, on a parlé du lashon hara, on a parlé de la mauvaise imagination. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on nous invite à travailler, à Avat Israël, purifier notre cœur, etc. Et bien sûr, à Karatatov, reconnaissance. On a commencé Bichlal en disant que la paracha commence avec l'importance de parler positif, de savoir réaliser ce qu'on sort de notre bouche, mais également d'utiliser notre bouche à bon escient. Et la première chose pour laquelle Hachem nous a donné une bouche, c'est pour le louer, le remercier, le glorifier. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu, vous voyez, on lit un petit peu tout ça, la période qu'on traverse, la paracha. Ensuite, on a la paracha de Mas'ei. La paracha de Mas'ei, ce sont les voyages, les pérégrinations des Bnei Israël. On va nous rappeler tous les endroits par lesquels ils sont passés. Pourquoi ? Quel intérêt ? Et vous savez, c'est marrant parce que moi, j'ai mon anniversaire cette semaine. Je vous le dis à vous parce que voilà, vous êtes déjà mes auditrices depuis longtemps et je vous connais. Cette année, je fais 50 ans, Baruch HaShem. Et c'est marrant parce que donc ma paracha, c'est la paracha de Mas'ei. Et quelqu'un m'a dit un jour, c'est marrant parce que toi, tu organises tout le temps des voyages en Ukraine, des voyages dans les Kivrei Tzadikim en Israël, etc. Et ta paracha, c'est Mas'ei, ce sont les voyages. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'histoire de ma vie, dans l'histoire de ce que je suis venue réparer. Il y a quelque chose qui est lié au voyage, j'en suis sûre, Bezrat Hashem, que je sois vraiment toujours une bonne shlicha. Donc, on voit qu'on va ici, dans cette paracha de Mas'ei, nommer tous les endroits que les Bnei Israël ont traversés dans le désert. Intéressant, pourquoi ? Alors là, on va lire ce que Rashi nous dit, le pourquoi, c'est très très beau. À savoir que la semaine prochaine, on a la Iloula de Rashi, on en reparlera, Bezrat Hashem. Donc le verset nous dit comme ça, « Celles-là sont les étapes des fils d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte selon leurs armées par la main de Moshe et de Aaron. » Et Rashi pose la question, « Pourquoi ces étapes sont-elles énumérées ?» Pour faire connaître les bontés d'Hachem, car s'il est vrai qu'il a décidé de déplacer les enfants d'Israël et de les faire vagabonder dans le désert, on ne peut pas dire qu'ils ont dû errer et vagabonder d'étape en étape pendant toutes ces 40 ans, sans jamais y trouver de repos. En effet, alors il va expliquer, je vous le dis rapidement, en fait Rashi il explique que la première année passée dans le désert, les Bnei Israël vont traverser 14 endroits. La dernière année passée dans le désert, ils vont traverser 8 endroits. 14 et 8, ça fait 22. On a dit qu'en tout, il y a 42 endroits dans lesquels les Bnei Israël se sont arrêtés dans le désert. 42 moins 22, ça fait 20. Tout ça pour nous dire que en 38 ans dans le désert, les Bnei Israël se sont déplacés 20 fois d'un endroit à l'autre, ce qui n'est en vérité rien, d'accord ? 40 ans, 20 endroits, ce n'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas tout ce qu'il nous dit Rashi. Il nous dit qu'en vérité, on veut dans ce descriptif de tous les endroits qu'Akadosh Baruch Hu a, dans lesquels les Bnei Israël ont traversé, on veut montrer là, comme dit Rashi, la miséricorde et la bonté d'Hachem. Que dans tous ces endroits, comment est-ce qu'Hachem les a protégés ? Comment est-ce qu'il leur a donné la manne ? Comment est-ce qu'il leur a donné les nuées de gloire ? Le puits ? Et tout ça, donc on va ramener en vérité tous ces endroits pour rappeler combien est-ce qu'Hachem il était présent. Regardez, il y a une très jolie parabole qui est ramenée par Rashi. Il dit, cela ressemble à un roi dont le fils avait été malade et qu'il avait conduit à un endroit éloigné pour le faire soigner. À leur retour, le père s'est mis à énumérer toutes leurs étapes. Ici, nous avons dormi. Ici, nous nous sommes rafraîchis. Ici, tu as eu des maux de tête. Donc voilà, un petit peu, on nous répète ici tous ces endroits, ces 42 endroits que les Israël ont traversés, pour montrer combien est-ce qu'Hachem était bon dans tous ces endroits, combien est-ce qu'il a pris soin de nous dans tous ces endroits, et pour qu'on sente la reconnaissance envers Hachem. Et on sait que lorsqu'on se rappelle Ça, c'est quelque chose que le Chida également nous dit lorsqu'on se rappelle des choses positives qu'Hachem nous a fait et qu'on remercie pour ces choses positives. En vérité, on s'attire, on réveille la miséricorde d'Hachem et on s'attire de nouveau des choses positives dans notre vie. Une dernière idée très importante que je voulais partager avec vous, une idée ramenée par le Toldot Yaakov Yosef, le Toldot Yaakov Yosef, je crois, un des élèves du Baal Shem Tov, en tout cas un enseignement au nom du Baal Shem Tov, qui dit que de la même manière que les Bnei Israël ont traversé dans le désert 42 étapes, nous aussi dans notre vie, nous traversons 42 étapes. Et que de la même manière que dans le désert, il y avait des moments forts comme le don de la Torah, et il y avait des moments beaucoup plus difficiles, comme par exemple lorsque les Israël se sont plaints, qu'ils ne voulaient plus de manne, ou des endroits comme Mara, ou d'endroits où ils voulaient de l'eau, ils se sont plaints, ils ont pleuré, etc. Dans notre vie, c'est pareil. Il y a des moments de Aliyah, des moments où on est behai, où on est bien, on est positif, on voit tout positivement, et il y a des moments où on est en chute, ça ne va pas, mais en réalité, tout ça, ça fait partie des 42 étapes que nous devons traverser pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. Ça veut dire quoi rentrer en terre d'Israël? L'Ibn Israël, c'était ce qu'il devait traverser pour pouvoir mériter d'entrer en Eretz Israël. Lorsque je dis ça pour nous, c'est en réalité pour pouvoir mériter de nous accomplir, de nous réaliser, de remplir la mission de notre vie, de remplir la raison pour laquelle nous avons été mis dans ce monde. On a donc des étapes, 42 Massaot, nous aussi, comme les Bnei Israël dans le désert, des hauts, des bas. Vous savez, les Mekoubalim nous disent que lire ces 42 Massaot, c'est une ségoula contre les épidémies et même d'autres choses. C'est quelque chose qui est bon de lire quand il y a un problème. C'est aussi pour cette raison, pour nous rappeler la reconnaissance qu'on a envers Hachem d'avoir pris soin de nous. Et pareil, dans notre vie, on a ces 42 Massaot. Il y a des moments forts, il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie. Mais on doit garder en tête qu'Hakadosh Baruch Hu nous a protégés dans tous ces endroits. Il a toujours été là pour nous et il sera toujours là pour nous. Voilà, mesdames, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que voilà, on s'est ensemble renforcés par Ezrat Hachem. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Et Ezrat Hachem, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.
Omar, 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 Rabbi Akiva. Lifnei mi, atem itaharim. Umi, 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 itaher eschem. Avichem sheba shomayim, Avichem sheba shomayim. Ashleichem, Ashleichem Yisroel.
Rabbi Akiva.
Shabbat, 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 Shabbat,